parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
Et bienvenue sur le podium de Top Music. Le podium est un podcast qui vous fait découvrir des tranches de vie, des parcours exceptionnels, des tempéraments étonnants, accompagnés des musiques qui ont jalonné leur chemin. Passionnés et passionnants, nos invités nous partagent leurs succès, leurs doutes, leurs échecs et ce qui les a fait avancer coûte que coûte. Cette semaine dans le podium, je vais vous parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle qui se voyait vivre ailleurs et voyager va devenir l'une des plus belles ambassadrices de l'Alsace et de ses talents. Tour à tour animatrice, journaliste, chroniqueuse, blogueuse, elle a fait tous les métiers, elle a même été gardienne de musée. Passionnée, amoureuse, généreuse, elle a le regard qui brille quand elle parle de ses familles. Une femme qui a choisi la liberté de faire ce qu'elle aime avec ceux qu'elle aime. Bonjour Caroline.
Bonjour Caroline.
Alors cette femme libre que tu es, comment ça commence ?
Ben ça commence avec un bac en poche à 18 ans et puis l'éternelle question quoi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Quel métier je vais apprendre ? Et je me lance dans des études d'histoire de l'art. Donc vraiment
mais par hasard ou...
pour me donner le temps, ben non, pas par hasard, mais parce qu'il y avait un intérêt pour l'art et pour ce qui est beau. Mais vraiment avec cette incertitude de qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie.
Et donc t'es pas différente des jeunes d'aujourd'hui, on se demande toujours ce qu'on va faire de sa vie au final.
C'est ça en fait, on a la chance, moi j'ai vraiment grandi dans une famille qui m'a laissé la possibilité de me poser cette question et puis aussi qui m'a fait beaucoup découvrir le monde. On a beaucoup voyagé avec mes parents et donc l'envie de peut-être trop de choses ou plein de choses en tout cas. Et à 18 ans, oui, je savais pas du tout vers où j'allais. Donc les études d'histoire de l'art et puis déjà, comme tu disais, une envie d'indépendance. Tout en habitant chez mes parents, j'ai toujours eu plein de petits boulots, quoi. Dès que j'ai pu commencer à travailler, j'ai travaillé. Et donc, et c'est ces boulots-là qui m'ont beaucoup, beaucoup forgé, peut-être plus que les études d'ailleurs. J'étais serveuse dans un glacier, j'étais ouvreuse au TNS, je distribuais le courrier au Parlement européen et gardienne de musée.
Ouais. Ça, c'est énorme.
Ça, c'était excellent.
Mais
non, alors c'était pas la nuit, c'était quand les vacataires, les gardiens permanents prenaient leur pause entre midi et deux.
Ah, d'accord.
Ou avaient leur journée de congé. Et donc on était tout un groupe d'étudiants, on devait téléphoner le mardi matin aux responsables du personnel et les premiers arrivés avaient les musées qu'ils pouvaient choisir. Donc en général, moi j'adorais aller au musée zoologique, j'adorais le musée alsacien, voilà, j'avais comme ça mes musées fétiches. Et puis on avait tout le loisir de faire un peu ce qu'on voulait, donc moi je dessinais en fait pendant mes heures. Au musée, je dessinais les animaux empaillés. Et puis, on discutait. On avait.
On écoutait de la musique un peu, non ?
On écoutait un peu de musique, ouais. Alors, pas au musée. Mais moi, j'ai toujours beaucoup écouté la musique.
Parce que t'écoutais, c'était
ouais, dans. Bah, 18 ans, moi, j'aimais bien. J'étais dans ma période trip-hop, donc Portishead, Glory Box, beaucoup de rap aussi. Donc, rap français, IAM. Ouais, l'empire du côté obscur que je chante aujourd'hui avec mes enfants.
Que tu leur apprends aujourd'hui.
Ah ouais, on le chante.
Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur.
En direction de la force obscure. L'empereur te révélera la vraie nature de la force. Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure ?
Donc ces petits boulots, tu gagnes un peu de sous, tu voyages avec ?
Exactement. Ces boulots-là me servent non pas à avoir un appartement, mais à pouvoir voyager dès que je peux, partir en vacances.
Donc pour toi, la liberté, c'était ça,
ouais,
c'était voyager.
C'était vraiment ça. Moi, j'ai la chance effectivement d'avoir un papa qui aime voyager. Et donc dès que je peux, je pars au Maroc, dans les pays de l'Est. Enfin voilà, d'avoir vraiment cette ouverture. Et c'est ce que tu disais, moi, je ne me voyais pas forcément rester en Alsace. J'avais appris l'anglais, j'avais appris l'espagnol. Et donc arrive un moment où j'ai envie de partir, de vivre à l'étranger, et je choisis l'Espagne pour faire ce grand pas, tout en continuant mes études. En fait, je reste une fille sérieuse, j'avance, et je passe l'équivalent d'une licence espagnole en Espagne. Et ça aussi, ça a été quelque chose d'assez fantastique, quoi, de sentir une culture qui devient la vôtre, en fait. Pendant un an, je me suis appropriée cette culture. J'étais au bord de la mer, à Valencia. J'ai jamais autant travaillé parce que j'avais pas d'échange Erasmus, donc il fallait que j'aie mon année. Mais j'étais considérée comme une étudiante espagnole.
Travailler,
donc il
fallait... tu veux dire, tu faisais des petits boulots.
Non, j'ai pas eu besoin de travailler parce que j'avais travaillé en amont beaucoup en étant serveuse. J'avais mis beaucoup d'argent de côté pour justement ne pas avoir à travailler, avoir de petits boulots là-bas. Mais quand j'ai travaillé, non, c'est à la fac, c'est étudier. D'accord. C'était un gros challenge d'arriver à avoir ses études en espagnol, puisque j'étais inscrite comme une étudiante espagnole. Et ça, par contre, c'est toujours quand j'y repense, c'est cette espèce de faculté à s'adapter, à sentir une culture qui rentre en soi, à appréhender une nouvelle langue aussi. Tout d'un coup, vous arrivez comme étrangère, il faut se débrouiller. J'étais au camping, j'avais pas d'appart. Et en une semaine, j'avais un appart, un compte en banque et j'étais inscrite à l'université.
T'étais débrouillarde, hein.
Ouais, j'étais assez...
Et tu t'es mise à la musique espagnole alors ?
Et alors, ouais, du coup, oui, les musiques du moment, c'est beaucoup Buena Vista Social Club, Compay Segundo. Et puis les musiques de mon père, Chico Buarque. On est au Brésil. Ouais, quelque part, j'écoutais pas assez d'essais quand j'étais en Espagne, ça c'est sûr.
Et alors, comment ça se fait que tu es rentrée ?
Alors, je suis rentrée pour valider, en fait, mes études. Il fallait valider mon année espagnole par encore une année française. Donc là, je m'inscris en maîtrise, en commençant tout doucement à savoir ce qui peut me plaire. Il y avait des options réalisation documentaire à l'université de Strasbourg. Et donc, ça commence à me parler. Je me dis, il faut que j'ai cette maîtrise pour accéder à ce diplôme réalisation documentaire. Je me dis, ça peut être chouette de raconter des histoires, les histoires des autres, au travers de la vidéo. Et il y a des stages à faire en maîtrise, et je tombe, et c'est là où ma vie va basculer, sur cette chaîne étudiante TV Campus, qui existait à l'époque, qui me prend en stage, alors que j'ai aucun savoir-faire en vidéo. Et je commence à apprendre le tournage, le montage.
Et comment ça se fait qu'ils t'ont pris un stage ?
Il y avait toujours besoin de petites mains, quoi. C'était une association étudiante et il y avait de tout. Et c'était surtout le but de cette association, c'était d'ouvrir au métier audiovisuel, d'ouvrir tous les étudiants au métier audiovisuel. Donc ils avaient toujours besoin de petites mains. Moi, je tractais, j'avais pour mission d'allumer toutes les télés du campus pour diffuser nos émissions. On avait 30 minutes d'émission par semaine qui étaient diffusées sur le câble et sur les télés du campus. Donc voilà, et je commence vraiment à me prendre de passion pour ces métiers de l'image et du son. Et j'apprends avec des étudiants qui ont mon âge, qui eux ont été formés au journalisme, qui ont été formés au montage, à la vidéo. Ça devient des amis et ça devient ma drogue. J'y passe... 25 heures sur 24, c'est une espèce de révélation, quoi. C'est vraiment, tiens, pour la première fois de ma vie, je comprends qu'il y a...
Là, tu sais ce que tu veux faire.
Ouais. Et le problème, c'est que j'ai 25 ans.
Le problème,
c'est-à-dire que pour se lancer dans des études, moi, je veux faire de l'alternance. Et je suis pas forcément bien accueillie. Je fais le tour de France des télés par téléphone pour essayer de décrocher une alternance. Et je ne trouve pas. C'est compliqué. Mais j'ai la chance d'avoir un ami qui me dit, écoute, il y a une télé alsacienne là, qui est en train de se développer, qui existe déjà, mais ils vont recruter. Ça s'appelle Alsatic TV. Et je dépose mon CV à Alsatic TV. Et je suis prise, pour la première fois de ma vie, je vais travailler, gagner de l'argent à faire ce que j'aime, puisque j'avais appris à tourner et à monter. Donc j'étais autonome.
Donc tu savais faire, t'étais formée finalement.
Je m'étais auto-formée avec les copains.
Sur le campus.
Ouais,
avec TV Campus. Tu te souviens de quoi ce que tu écoutais à ce moment-là
quand TV Campus, ouais. On était un peu jazz, j'aimais beaucoup Paris Combo. living room, ça groove. J'aimais aussi un peu tout ce qui était l'électro, mais l'électro douce, RJD2, Ghostwriter, c'était des choses que j'écoutais sur mon vélo quand j'entrais tard le soir. Madeleine Peru aussi, Dance Me to the End of Love. On était comme ça, ouais, dans une période un peu jazz et électro.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canifs et des idées malsaines.
Et ça me rappelle en fait des souvenirs. C'est en fait mes premières interviews. J'étais en charge d'une émission autour du cinéma. Et donc j'interviewais les réalisateurs et les acteurs qui venaient en promo en Alsace. Et donc c'était des rencontres, pour moi, petite étudiante, c'était extraordinaire de rencontrer Jeanne Moreau, de rencontrer Luc Besson. Enfin, c'était vraiment...
D'ailleurs, je crois que tu as fait une interview inédite de
Luc Besson. Oui, alors Luc Besson, ouais, c'était très particulier. En général, les équipes étaient rodées. On avait... chaque média avait son temps dédié. Mais certains, comme Luc Besson, ne voulaient pas être filmés. Ils contrôlaient leurs images, donc ils voulaient bien qu'on prenne des sons, mais pas d'images. Donc moi, j'arrive avec mon dictaphone, mais en tant que télé, c'est un peu frustrant. Donc je pose mes questions, et puis on est plusieurs radios en même temps, et puis je le prends à part. Après, j'ose aller le voir, et je lui dis, bon ben, je vais pas vous embêter sur la promo du film, mais on est une télé étudiante, est-ce que vous avez pas un petit message juste très court à donner aux étudiants qui veulent faire votre métier? Et là, ça a été extraordinaire, parce qu'il y a eu ces petites étoiles dans les yeux. Il m'a pris par l'épaule, il m'a dit, ouais, ok, on va la faire. Je réponds à ta question. Et voilà, il a répondu à deux questions, il a passé un message aux étudiants. Et ouais, du coup, et en fait, c'est là, tout doucement, et même par la suite, que je vais découvrir qu'en fait, le métier de journaliste, il suffit d'y croire, il suffit de le vouloir, et en fait, toutes les portes s'ouvrent.
Mais justement, j'allais te demander, qu'est-ce qui fait que finalement, tu es passé de plein de petits boulots comme ça, de petites aventures, de vouloir voyager, partir, etc. Et puis finalement, tu as une révélation, c'est finalement le journalisme ou la vidéo, ou enfin, tout ce milieu-là. Qu'est-ce que tu transmettrais comme message à des gens aujourd'hui qui se disent, moi, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, je me cherche, je vais faire un peu de fac, je vais faire un peu de ci, tu vois?
Finalement, on va dire la vraie formation, c'est l'école de la vie. En fait, c'est là où j'ai c'est en faisant tous ces petits boulots en voyageant que j'ai appris à savoir qui j'étais.
Et c'est toujours vrai aujourd'hui, tu penses ?
Mais oui. Et en fait, il faut savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qui on est, ce qu'on n'aime pas aussi. Et quand on se cherche, je pense qu'il faut surtout pas être passif, quoi. Il faut vraiment, il faut tester plein de choses. Et à un moment donné, la réponse, elle vient. Après, c'est idiot, mais j'avais une conseillère d'orientation qui, en quatrième, m'avait dit que j'étais fait pour les métiers de la communication. J'aurais gagné un peu de temps si je l'avais écoutée. Mais c'est tellement vague, les métiers de la communication.
C'est vrai. Enfin,
c'est pas du tout concret, quoi.
Donc, t'avais déjà cette aisance, quand même, tu savais parler.
Ma mère m'a toujours dit qu'à 3 ans, j'allais déjà, je traversais la rue, j'allais voir ma voisine pour discuter avec elle, quoi, à 3 ans. J'ai toujours aimé parler avec les gens, aller à la rencontre des gens. C'était quelque chose qui était déjà là en moi. Après, trouver le métier qui correspond, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pense que c'est bien que ça arrive à un moment et du coup, d'être motivée, quoi. Peut-être que mon seul regret, c'est de ne pas avoir été formée suffisamment. Et en même temps, c'est ma fierté de m'être auto-formée ou formée avec les autres qui sont devenus des amis. C'est assez magique aussi, quoi. D'apprendre avec des gens qu'on aime, c'est chouette.
Donc là, on est chez Alsatique.
Alsatique,
ouais. Où tu as ta première émission.
Bah voilà, alors je suis pas encore vraiment responsable d'émission. Je fais partie d'un groupe de stagiaires qui est payé. Donc là, je suis payée pour faire ce que j'aime, donc c'est magique.
Un groupe de stagiaires payés.
Ouais.
Non, en fait, on est
à l'essai. Voilà.
D'accord.
On est un groupe de jeunes à l'essai. La chaîne va se développer. C'est la course à la TNT. Et donc le directeur veut caster sa future équipe. Et on est sur des opérations spéciales. On va être pendant une semaine tous ensemble en immersion à Mulhouse. On va couvrir le tournoi de tennis ici à Strasbourg. Donc on est vraiment, on est tous ensemble. On
à
est
Mulhouse,
tout un groupe.
D'ailleurs, tu rencontres un groupe. Ouais. Un groupe de
ouais,
musique.
C'est ma petite, c'est ma Madeleine à l'époque. C'est la vieille école en fait. C'est un groupe mulhousien qu'on capte sur la place de la Réunion en direct, en live. Et ça va être la musique qui va bercer vraiment ces mois de démarrage à Alsatique. Ils avaient un titre qui s'appelait Limiter mon gars et je l'écoute encore. Je me replonge vraiment dans cette période.
Limiter mon gars, j'y peux rien si t'as choisi d'elle.
Je découvre la richesse en fait des groupes alsaciens aussi.
De l'Alsace tout court.
Ouais, ça va venir après. Ça va venir après, mais tout d'un coup, je me rends compte ouais, qu'on est sur un territoire qui est extrêmement riche et vraiment très varié, et que bah, y a pas forcément besoin d'aller très loin pour découvrir des pépites. Et donc bah, j'ai ce stress de me dire est-ce qu'on va me garder, est-ce que je vais être retenue, et puis le directeur m'annonce que je vais être journaliste sur le News JRI, et ça me convient pas parce que moi ce qui m'intéresse c'est le magazine, c'est prendre le temps de rencontrer les gens, de raconter des histoires. Et le News, ça me correspond pas. Je suis pas journaliste de formation.
Et tu refuses alors?
Et donc je refuse. Et en parallèle.
Gonflé.
Ouais. En parallèle, mais je sais pourquoi je refuse, c'est que en parallèle, il y a une nouvelle chaîne de télé qui arrive en Alsace, qui s'appelait Télé Alsace. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à l'arrivée d'Alsatique, en arrivant à Alsatique, je rencontre non seulement mon premier métier, mais mon amour aussi, Gabriel, qui va partager après ma vie professionnelle et privée. Et Gabriel me dit, écoute, allons voir ce qui se passe. À Télé Alsace, et on est embauchés tous les deux à Télé Alsace. Et c'est vrai que cette aventure était formatrice parce que de derrière la caméra, je me retrouve devant la caméra. C'est-à-dire que je continue à faire des reportages, mais j'ai en plus à ma charge une chronique sur un plateau tous les soirs en direct de un quart d'heure, 20 minutes. Et donc je débute devant la télé, devant la caméra, c'est pas facile. C'est épuisant parce qu'on est tous les soirs en direct.
Et tu racontes quoi alors?
Et on est donc j'ai à ma charge ouais la découverte du territoire alsacien. Donc on est dans une commune différente tous les soirs et à moi de faire découvrir cette commune au travers d'une assoce, d'un passionné.
Donc il y a un gros travail de repérage.
Ouais, il y a un travail de recherche, de repérage, et puis petit à petit je vais chercher aussi ce qui m'intéresse. Quoi, j'ai 26, 27 ans. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le territoire alsacien? Donc j'essaye de gérer cette chronique de manière la plus fraîche et la plus authentique.
Qu'est-ce qui t'intéressait alors ?
Possible. Et du coup, bah, je retrouve. C'est là où je découvre vraiment le territoire alsacien. Quoi. Il y a vraiment. Il y a des initiatives dans toutes les communes, quels que soient les âges et les profils des gens. On a des gens qui font découvrir leur commune au travers. Je sais pas, de balades comptées, de recettes de cuisine. Voilà, il y a vraiment des pépites.
Il y en a une qui t'a marqué plus qu'une autre?
Ben, on a eu, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, il y avait des belles émissions. Alors, à l'écomusée d'Alsace, du coup, parce que j'allais à la rencontre des bénévoles qui font l'écomusée. Et c'est vrai que c'était intéressant d'entendre leur parcours, et leur intérêt complètement, c'était des choses très, très. Ils donnaient de leur temps pour faire vivre l'Alsace d'antan, quoi. C'était, ouais, c'était beau. Étonnant, et ils avaient tous les âges, vraiment. Il y avait des passionnés qui avaient mon âge aussi. Mais c'est vrai que les souvenirs les plus forts. Alors, j'essayais aussi de faire vivre le plateau parce qu'il faut s'imaginer que le plateau télé.
Alors, c'était en studio ou
ouais.
Tu étais en.
Alors, on avait les deux, c'est-à-dire qu'on avait, on va dire, sur une semaine d'émission, il y avait deux émissions en plateau et le reste était tourné en extérieur. Et le plateau, c'était une toute petite pièce, quoi. C'était pas les grands plateaux
seule.
Télé. Et non, on était cinq. Ah. Il y avait un présentateur, on était quatre chroniqueurs, on tournait les uns après les autres. Et une équipe. Et du coup, on était dans un tout petit sous-sol à Schiltigheim. Et moi, j'aimais bien rythmer ce plateau. En fait, j'amenais des plantes. Un jour, j'ai ramené un aigle de la volerie des aigles. Enfin, j'essayais de.
De rendre vivant.
Ah ouais, le plus possible. On se déguisait. J'adorais me déguiser. J'adorais.
Il y a une musique qui te revient de cette époque-là?
Qu'est-ce qu'on avait spontanément comme ça Ouais, on écoutait Madonna, Hang Up. On avait c'est des choses assez c'est très ça bouge beaucoup quoi. C'est
et vraiment, tu m'as confié que Gabriel t'avait également dédicacé une chanson.
Alors, on avait, à l'époque, il y avait le dîner de Benabar qui tournait en boucle à la radio. Et on l'aimait bien, c'est devenu notre musique parce que bah, c'est l'histoire de ce gars qui ne veut pas aller manger chez les copains, qui préfère rester sous la couette à regarder Louis de Funès. Et c'était Gabriel tout craché, quoi. C'était bah, la vie dehors, c'est super, mais je préfère rester
la
avec toi. Avec toi, peinard. Et encore, il y a quelques jours, on l'a écouté, on en a rigolé parce que c'est vraiment, c'est lui tout craché. Donc c'est devenu notre musique. Ouais.
On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis.
C'est vrai que c'était assez génial de découvrir un métier partagé avec celui qu'on aime, quoi, finalement. Parce qu'on était, tout le temps ensemble.
Mais d'ailleurs, ce qui est formidable, je trouve, tu m'as raconté quand on a préparé un petit peu cet entretien, que tu n'imaginerais pas de vivre avec quelqu'un qui ne ferait pas le même
aujourd'hui,
métier que
toi. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui,
c'est,
parce
c'est
que
assez rare.
En fait, tout le monde me dit oh, mais comment vous faites pour travailler ensemble, parce qu'on travaille toujours ensemble. C'est vrai que quand on fait un métier passion, quand on fait un métier qui est en soi, il y a pas de cloisonnement, quoi. C'est vraiment on y pense tout le temps, et du coup de pas avoir quelqu'un à ses côtés. Qui sait à quoi vous pensez, qui fait évoluer aussi votre façon de voir votre métier, ben ce serait compliqué, parce que c'est mon miroir, quoi.
Et puis il te donne confiance.
Oui, voilà. En fait, il a toujours cru en moi, parce que les débuts sont compliqués, hein. Quand on n'a jamais présenté d'émission, je me suis mangée plusieurs fois. J'ai fait des grosses bêtises en direct à l'antenne. Enfin, j'ai fait des choses.
Comme quoi, raconte.
Ah non, ça, j'ai des trucs, mais je crois que j'ai. Non, mais la chose dont j'ai le plus honte, et les équipes étaient bien embêtées. D'ailleurs, on avait un passionné de voiture qui est venu en plateau. On avait la voiture garée devant le studio, donc on a fait une petite interview dans la voiture, qui était une coccinelle. Et il m'explique la jeunesse de cette voiture, et il explique que c'est Hitler qui a amené les coccinelles en Alsace. Et j'ai remercié Hitler. Voilà, en direct sur une chaîne pour avoir ramené ces... Non, mais ça, c'est des choses... Je me souviens la tête de Gabriel, il me dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Et c'est sorti tout seul. Et voilà, c'est des choses qui font
c'est
rigoler.
C'est ta spontanéité
dessus toujours. J'en suis même à remercier des gens qui n'ont absolument pas mérité d'être remerciés. Mais bon, pour la coccinelle, en tout cas, je considérais qu'on pouvait le remercier. Non, c'est des grosses gaffes. Et lui, il a toujours été là, ouais, parce que c'est éprouvant, des émissions en direct. Et il est là pour me dire bah, t'es bien, il faut y croire, et voilà.
Alors tu as aussi un petit, justement quand ça va pas trop ou quand tu as vraiment le moral dans les chaussettes, j'imagine qu'après une bourde pareille tu te sens mais tu voudrais rentrer sous terre.
Oui, c'est ça. Ouais,
et comment tu fais pour redémarrer le lendemain?
Alors moi j'ai cette espèce de philosophie, c'est ce que je te confiais, dans nos métiers, quand ça va pas, quand on n'est pas bien, il y a absolument rien qui marche. On décroche son téléphone, on arrive à avoir aucune interview, tout est compliqué. Donc j'ai appris à vivre avec ces jours-là. Il y a des jours où ça va pas. J'ai appris à vivre avec ces jours-là, à pas me miner et à me dire que bah demain ça ira mieux. Et en général, ouais, demain ça va mieux et tout marche, quoi. C'est vraiment une question de confiance en soi, de d'y croire, mais d'accepter aussi que ça puisse ne pas aller. Tout le monde me dit mais t'as toujours la patate. Alors bah non, j'ai pas toujours la patate, mais on me voit moins du coup quand j'ai pas la patate. Je reste voilà, j'attends que la patate revienne.
T'attends que ça passe.
Ouais, j'attends que ça passe. J'accepte aussi de pas être bien, de douter, et c'est après, quand la patate revient, toutes les portes s'ouvrent. C'est ça qui
et
est
ça,
génial.
Et ça, c'est un conseil que tu donnerais un petit peu autour
oui,
de
oui.
toi.
Oui, oui, je trouve.
Donc,
que...
Donc acceptons qu'il y ait des jours qui ne soient où la vie ne soit pas rose.
Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et combien de fois je l'ai vérifié, quoi. C'est vrai que, comme une espèce de superstition, de se dire non mais là, il y a rien qui va marcher aujourd'hui. Rien ne marche. Et le
tu
lendemain.
Le sais en te levant le matin?
Et le lendemain. Ouais, petit à petit, ouais. Quand tu te cognes le pied au coin du lit et que ça fait mal, tu te dis, bon, bah, la journée va peut-être pas être top. Et puis, t'as la confirmation après avec les WC qui fuient. Et puis, voilà. Bon, bref, tu sais que la journée va pas.
Tu te mets une petite musique dans ce cas-là?
Quand ça va pas. Alors, moi, je suis pas du genre à me morfondre, par contre. Mais c'est vrai que. Moi, c'est vrai que j'ai Portichette qui me vient comme ça en tête, Glory Box. Je trouve que c'est une musique très très mélancolique et très qui t'emmène comme ça dans des qui peut te laisser dire bon bah là je me laisse aller à de la mélancolie, mais je vais pas me la mettre exprès quand ça va pas. Si tu me parles de mélancolie et de bad time, c'est cette musique là qui me vient.
I'm so tired of playing.
Continue, donc ton émission, ça marche bien.
Donc l'émission marche bien, par contre on n'est pas super heureux au sein de l'équipe. On a un peu le derrière entre deux chaises avec Gabriel, parce qu'on est donc dans une télé concurrente d'Alsatique TV. Gabriel avait démarré sa carrière à Alsatique TV, donc on a des amis qui sont restés à Alsatique TV, on continue à se voir, et les deux chaînes sont concurrentes. Nous, on a vraiment pour ordre d'abattre Alsatique TV à l'époque.
Ah oui, à ce point-là, c'est fou. Ouais, ouais.
C'est
violent.
Un groupe. Bah, c'est deux chaînes qui sont.
Il y en a une de trop, c'est ça?
Il y en a une de trop. C'est la course à la fameuse TNT. Donc, on sait que la chaîne qui va remporter le faisceau TNT aura forcément une vie plus simple. Et donc, mais nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas des snipers. Hein. On nous disait, vous êtes des snipers. Il faut dégommer ceux qui sont en face. Et on a du mal à trouver notre place. Et on croise souvent les anciennes équipes d'Alsatique TV, et puis le directeur finit par nous dire bah, « Revenez, les gars, vous êtes partis, mais vous pouvez revenir. » Donc, on quitte Télé Alsace au bout d'un an. Moi, du coup, j'ai la casquette de plus magazine, de présentatrice, dédiée au terroir, au territoire, et je me retrouve du coup avec une émission que j'aurais peut-être pas eue en restant alsatique, une émission qui s'appelait « Du côté d'ici », qui va effectivement faire découvrir ce terroir alsacien. Un quart d'heure, puis 26 minutes. On va avoir une émission de 26 minutes toutes les semaines.
Et Gabriel est toujours aux manettes.
Et donc Gabriel il a plusieurs casquettes de la chaîne, mais il va être mon réalisateur et mon caméraman. Et là, c'est vrai qu'on a des souvenirs assez forts de tournage où on est parti en immersion pendant 2-3 jours. On a suivi une transhumance dans la vallée de Munster, sous la pluie, avec des vaches qui nous paument, à courir avec la caméra. Enfin, on a des souvenirs de tournage très très forts. Toujours avec cette idée d'apporter une image fraîche, actuelle de l'Alsace, finalement, avec toutes sortes de gens, quoi. C'était vraiment très, très mélangé. Mais, et puis une totale liberté. Vraiment.
Tu fais ce que tu veux.
Je conçois cette émission, ouais, comme je veux. Et ça, ça a effectivement pas de prix. C'était des très beaux souvenirs de tournage et de rencontres. En fait, là, tout doucement, on commence vraiment à se faire une petite notoriété. Tout doucement, les gens commencent à me reconnaître dans la rue, c'est marrant. Et aujourd'hui, je croise encore des gens qui me disent « je me souviens de cette époque d'émission ». Avant même
c'était
de faire,
année
avant ouais. de faire de la déco, ben on est à partir de 2007, d'accord. 2007, 2008, 2009. Voilà, ça a duré 3 ans des émissions consacrées à la.
Donc tu connais l'Alsace comme ta poche.
Au territoire. Et là, du coup, je c'est confirmé. L'Alsace, c'est mon territoire et il est extrêmement
riche. Tu parles alsacien, en fait ?
Et donc, c'est un de mes grands regrets. Non, c'est de ne pas parler l'alsacien. J'ai des parents qui ont voulu une vie moderne pour nous. Eux le comprennent et le parlent avec leurs parents. Mais on habitait en ville et il n'était pas question forcément d'apprendre l'alsacien. Et encore une fois, je n'ai même pas fait d'allemand. J'avais vraiment ma tête tournée ailleurs, quoi. Je pensais vivre ailleurs. Donc j'ai appris l'espagnol, j'ai appris l'anglais. C'est un de mes grands regrets. Et je dis toujours en rigolant, Gabriel parle l'alsacien. Je lui dis, mais je vais prendre alsacien en langue étrangère. Il me dit, non, mais l'alsacien, ça se parle avec le cœur. Si ta mère t'a pas parlé l'alsacien, t'apprendras pas l'alsacien. Donc je comprends des mots, évidemment. Mais je peux pas tenir une conversation, c'est pas possible.
Gabriel parle alsacien aux enfants?
Oui, lui, il parle l'alsacien. Il commence à parler aux enfants, ouais. Mais c'est pareil, c'est la langue avec sa maman. C'est compliqué pour lui de le parler aux
autrement
enfants.
Autrement qu'avec sa maman.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est marrant, cette transmission. C'est bête, hein, quelque part. c'est bête. Alors du coup, je me rattrape, je fais découvrir le terroir autrement.
Alors, après cette période alsacienne, on va dire, tu te lances dans la déco. Tu deviens un petit peu l'égérie de la déco.
Oui. Il y a un changement dans la chaîne, un nouveau nom, un nouveau directeur, une nouvelle équipe dirigeante et donc un vent de nouveauté. Donc on balaye un petit peu les émissions de terroir.
Donc finalement ta chaîne a gagné le duel.
Oui, pardon. Alors oui, ça j'ai pas précisé. Effectivement, c'est Alsatique qui va remporter cette course à la TNT donc en 2008.
Donc t'as fait le bon choix.
J'ai fait le bon choix parce que Télé Alsace va tenir encore un an et va disparaître. Donc effectivement, ouais, on avait bien fait de retourner à nos premiers amours et nouveau tournant, ouais, en 2009, puisque le directeur fondateur de la chaîne est remercié, un nouveau arrive, une nouvelle équipe avec des nouvelles envies.
Et un nouveau nom.
Un nouveau nom. La chaîne passe d'Alsatique TV à Alsace 20. Et certaines personnes sont remerciées, dont Gabriel. Donc là, il se retrouve...
Ah, Gabriel est remercié.
Ouais, il se retrouve intermittent du spectacle. Il continue quand même à pouvoir travailler avec moi et à faire d'autres choses.
Tu fais ta maison de production alors ?
Donc non, là pour l'instant, moi je reste salarié d'Alsace 20. Gabriel lui est intermittent du spectacle, donc il va faire d'autres choses, il va réaliser des documentaires de son côté, mais il continue à tourner avec moi les émissions. Et donc oui, on est là en brainstorming, quelles nouvelles émissions pourrait-on imaginer ? Les équipes dirigeantes veulent quelque chose de plus urbain et on se dit que finalement la déco serait une super thématique. Il y a absolument rien sur cette thématique dans la région et je deviens Madame Déco avec l'émission Secret Déco qui démarre donc en 2010, et je dis au directeur, non mais là par contre, on est en Alsace, on va tenir un an, on n'est pas à Paris, on n'est pas à New York, qu'est-ce qu'on va montrer comme intérieur ? Et ben je me trompe, et chaque année il me pose la question, il me dit alors, t'as fait le tour ? Et je dis, ben non, j'ai pas fait le tour. Au début, on tâtonne, on va, parce que j'ai un carnet d'adresses quand même assez conséquent depuis toutes ces années, donc je toque aux portes, et puis... petit à petit, il y a un réseau qui commence à se faire. Moi, j'aime découvrir l'intérieur des gens. Je cherche pas forcément des réalisations d'architectes d'intérieur, même si on en aura et c'est génial. Mais j'aime bien montrer l'intérieur des gens, comment sont les gens et comment peut être l'intérieur. Et puis surtout, comment ils ont fait, parce que la plupart qu'on a filmé, on fait beaucoup de choses eux-mêmes. On détournait des objets.
En fait, le fil rouge de tout ça, c'est ton amour pour les gens, pour la découverte.
Oui,
hein,
oui.
De ce que font les gens, qu'ils soient chez eux, dans leur village, dans leur...
C'est ça
ton truc.
C'est ça, et je trouve assez fascinant...
La curiosité de l'autre. Hein.
Oui, c'est ça. Et entendre les gens se livrer, et puis les laisser aussi se livrer. Je pense que ce qui avait fait aussi beaucoup le succès de cette émission, c'était la sincérité. Parce qu'on allait chez des gens vrais, qui étaient the girl next door, quoi. C'était vos voisins, et tout le monde pouvait s'identifier dans ces intérieurs. On aimait ou on n'aimait pas, parce qu'on a filmé des endroits assez fous. Donc, je pense que tout le monde ne pouvait pas se projeter dans ces intérieurs. Mais ce que j'aimais dire, on n'était pas là pour dire on montre du beau. Moi, je voulais montrer de l'original et de l'authentique, des gens qui avaient réussi à se projeter et à montrer qui ils étaient dans leurs intérieurs. Et donc, c'est effectivement l'émission qui... Ça va changer beaucoup de choses, puisque je vais devenir une spécialiste, entre guillemets, régionale, parce qu'on va multiplier les adresses. On fait à la fois découvrir des intérieurs, mais aussi des boutiques, des artisans, des créateurs. Et là encore, je découvre à quel point la région est riche et qu'il n'y a pas besoin d'aller à Paris pour...
Ou à New York
pour meubler ou décorer son intérieur. On a tous les savoir-faire dans la région. Il y a des pépites à chaque coin de rue, et des petites boutiques, des artisans. Enfin, c'est extrêmement riche. Et tout ça, je le garde précieusement. Je garde toutes ces adresses. Certains deviennent des amis. Là, je me fais une nouvelle famille. C'est la famille Déco. Des gens qu'on va retrouver, même on est allé filmer chez eux une première fois, ils ont vendu la maison, on retourne les voir 2 ans après, enfin il y a une espèce de fidélité comme ça de certaines têtes, et j'aime bien ça aussi, retrouver ces mêmes personnes, les suivre, et je compile ces adresses précieusement, et un jour on en fera un livre avec ma compagne déco qui est Valérie Dellenbach, qui a été effectivement aussi une des premières personnes dans ce domaine à m'ouvrir des portes, puisqu'elle avait énormément d'amis qui avaient aménagé leurs intérieurs, et elle va m'ouvrir des portes. Et on met comme ça le doigt dans plusieurs réseaux, sur toute la région, quoi, sur toute l'Alsace. Et toutes les semaines, on arrive à faire découvrir un autre intérieur différent. Et c'est vrai que le challenge, c'était pas gagné, quoi, parce que tout le monde se disait, mais en Alsace... La problématique de la région, c'est qu'on l'associe pas du tout à la déco. Mmh. C'est pas branché, l'Alsace. Elle peut pas être déco, quoi. C'est pas possible.
Justement, parlons de branché, parlons de réseau, parce que cette émission, elle va t'amener sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est ça.
Et tu vas commencer ta nouvelle vie de blogueuse.
La vie parallèle. Bah oui, parce qu'il y a rien qui existe sur cette thématique. Donc, j'ouvre un petit blog d'abord sur Overblog. Ensuite.
Tu te souviens ce que tu écoutais à ce moment-là
Qu'est-ce qu'on est en 2009. Stromae, ça a été une révélation en 2009. Cocoon, j'aimais beaucoup Cocoon. Choupi, on l'entendait beaucoup à la radio.
Pour toi, c'est un nouvel élan, ça.
Ouais.
Presque tu changes de vie.
Je change de vie, je change de look aussi. Et puis ma vie.
Deviens blonde.
Ouais, je deviens blonde.
C'est à ce moment-là que
je suis devenue blonde. et je change. Alors, je change de vie professionnelle.
Pourquoi, d'ailleurs?
Pourquoi
tu changes de tête?
C'est ma coiffeuse qui me dit, mais toi, je te verrais bien blonde. Et donc, ça amorce la transformation, parce que pour être blonde décolorée, il faut que ça. Moi, je me suis toujours teint les cheveux, donc il fallait que mes cheveux soient naturels. Donc, j'arrête de teindre mes cheveux pendant un an pour avoir vraiment ma teinte naturelle.
Et tu passais quand même à la télé à ce moment-là.
Et je passais, ouais, toujours à la télé, ouais. Et puis c'est une transformation amusante, parce que je tombe enceinte à ce moment-là de ma grande fille, Valentine. Et je deviens blonde tout en étant enceinte. Enfin, c'était vraiment tout en même temps, quoi.
La métamorphose.
La métamorphose. Ouais, exactement. Alors d'abord, je suis jaune poussin, c'est absolument horrible, avec des coupes de cheveux. Bon, voilà, on a travailler la coupe, il a fallu quelques mois, quelques années avant de trouver la coupe de cheveux qui allait avec la couleur.
Donc ça veut dire quoi? Pour être blogueuse et pour être sur les réseaux sociaux, il faut un look?
Non, pas forcément. Non, ça, j'en ai pas conscience tout de suite. C'est juste une envie, ouais, de faire.
Mais est-ce que t'as réfléchi que ça allait te démarquer? Est-ce que tu t'es dit cette coupe, cette couleur,
pas tout de suite.
Ça va me donner un style?
Non, pas forcément tout de suite. Moi, j'étais encore pas du tout. Enfin, je pense que je le suis toujours pas. Même si je suis contente d'avoir trouvé mon style, parce que quand je vois les images de l'époque, et elles existent, hein, puisqu'il y a tout est encore sur le net. Je me dis que mon Dieu, le look était loin, mais ça m'intéressait pas. J'étais pas du tout dans l'apparence, mais alors pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le contenu, la fraîcheur, l'originalité, mais pas du tout le look. Ouais,
en devenant plus actif sur les réseaux sociaux,
après,
en créant ta chaîne YouTube, etc.
Ouais.
Est-ce que le look, c'est quelque chose d'important?
Mais je pense qu'il y a l'âge aussi qui joue beaucoup. C'est plus une question d'âge et de se dire dans quelle basket je suis, finalement elle est quoi, c'est quoi ma tête, et ça aussi ça prend plusieurs années à trouver, et je me pose encore des questions. L'été dernier, j'ai fait un essai, je suis repassée par le mode brune, c'était catastrophique, je suis redevenue blonde aussi sec, donc non, c'est une question, c'est une recherche de soi.
Demandais ce que t'allais faire.
Ouais, c'était un peu ça. Ouais, c'était un petit peu ça. C'est là, je sais ce que je fais, mais c'est quoi mon look. C'est pareil. C'est avec des rencontres. Toujours ma coiffeuse, quoi, qui me dit tiens, on va tester ça. Donc elle testait des trucs.
Quand même. Tu
on
oses.
Ose, ouais.
Parce
ouais.
que je sais
ouais,
pas ouais. si moi j'oserais devenir blonde d'un coup comme ça.
Alors
toute ta vie, t'as quand même osé.
Mais bizarrement,
oser te mettre devant la caméra,
ouais.
Oser transformer ton identité.
Oui, parce que c'est quelque chose que le métier m'a appris, c'est que tout est possible. C'est-à-dire qu'il suffit de le vouloir. Moi, j'avais l'impression de surmonter des montagnes parfois, mais juste parce que j'avais décidé quelque chose. Et d'ailleurs, Gabriel est usé et fatigué, parce que j'ai tout le temps plein d'idées. Et j'arrête pas de me dire, mais ça, c'est possible. Si on a envie, ça, c'est possible.
Il n'y a jamais rien qui t'arrête.
Ouais, il n'y a rien qui m'arrête. La seule chose qui peut m'arrêter, c'est moi-même. c'est le doute, c'est de me dire est-ce que je vais jusque-là, est-ce que j'ai envie d'aller jusque-là. Mais autrement, le métier de journaliste, c'est assez magique, ça m'a apporté énormément de confiance et zéro barrière. Et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes enfants aussi, de leur dire il n'y a que le doute qui va vous empêcher d'avancer. Si vous avez décidé quelque chose, vous allez y arriver, quoi.
Donc et ça marche. Un conseil que tu donnes autour de toi.
Ouais, complètement.
Envie d'avoir envie.
Envie et y croire. Voilà. Et si tu y crois et que tu as envie, ça prendra peut-être plus de temps. Y a peut-être des choses qui vont être compliquées. Mais moi, je pense que c'est possible. Parce que tu as en toi une énergie, tu fais rayonner quelque chose de positif qui se répercute sur les autres et qui vont donner envie. Enfin, tu vas leur donner envie d'avoir envie aussi. Ça se transmet, en fait. Les ondes positives se transmettent. C'est pour ça que je disais, quand je ne me sens pas positive, je ne me montre pas aux autres, parce que je sais que le retour ne va pas être positif non plus.
Et ça ira mieux demain.
Oui, ça ira mieux demain. Et quand on est positif, on a du positif qui revient. C'est sûr.
Donc, on revient à la déco. Donc tu deviens une figure un peu emblématique de la déco. Tu investis les réseaux sociaux.
Du coup, en parallèle, ouais, pour ces émissions, c'est frustrant finalement d'avoir un quart d'heure, même si c'est magnifique, d'avoir un quart d'heure d'émission par semaine, parce que de ces émissions, je prends beaucoup de photos, je note beaucoup d'adresses, et tout ça, toute cette matière, j'ai envie de la diffuser. Donc ça va être
Tu peux pas la diffuser à la télé.
C'est compliqué. Disons que l'émission a son temps, ça démarre et puis ça se termine, mais on n'a pas forcément moi, j'aime bien faire des arrêts sur image. Je prends beaucoup de photos des intérieurs qu'on visite. Je note plein d'adresses que me donnent les gens chez qui on va. Et tout ça, j'ai envie de le partager. Donc, mon début sur les réseaux sociaux, ça va être toujours le partage, quoi. Diffuser ces photos, prolonger les émissions. Et puis, enfin, interagir. Parce que la télé, ça va dans un sens. Vous donnez de vous-même, mais vous recevez pas, à moins de croiser quelqu'un dans la rue qui vous parle de vos émissions, vous avez aucun retour sur les émissions. Et là, tout d'un coup, les réseaux sociaux, il y a un dialogue qui commence.
Prend beaucoup de temps d'entretenir ces réseaux sociaux.
Au début, non. Au début, non. Je n'ai pas conscience. Je cherche pas le nombre de vues, le nombre de j'aime. D'ailleurs, toujours pas. Hein. J'ai pas assez de constance sur les réseaux. Je le sais. Je me laisse pas du tout envahir par les réseaux sociaux. Je poste, au gré des émissions. Mais c'est surtout le retour des gens qui commence à être un petit peu grisant, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui regardent, du coup. Ouais. Et du coup, ça devient des dialogues, ce profil. Et je commence à donner des adresses aussi. On me demande, je cherche un peintre, je cherche un charpentier. Et là, je me rends compte qu'effectivement, on a une mine d'or dans mes carnets de contacts, quoi. Et bizarrement, il n'y a pas de hasard, mais une autre rencontre qui va faire beaucoup changer les choses, c'est le Parc Expo de Colmar. L'équipe de communication qui me contacte, on se connaissait, on avait déjà tourné à l'occasion de leur très beau salon de déco qui a lieu chaque année en octobre. Et l'équipe me dit, l'année prochaine, on a la 20e édition. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et puis moi, je me dis, montrons ces artisans alsaciens, quoi. Nous, on a le carnet d'adresses, on peut leur consacrer un podium. Moi, je mettrai une télé avec nos émissions, on les mettra en fond, et puis ça fera parler. Et l'équipe me dit, OK, on a 300 mètres carrés.
Ah oui, pour mettre un podium, c'est
un peu grand.
Grand.
Un podium, si on les mettait en œuvre, ces artisans, si on montrait leur savoir-faire. Et c'est comme ça qu'est née la Maison de Caroline en 2013.
La première Maison de Caroline.
La première Maison de Caroline au Salon de Colmar, au mois d'octobre.
Donc qui a été bâtie avec des artisans alsaciens.
Voilà, l'idée c'était vraiment de montrer le savoir-faire
une
alsacien.
Vitrine, en fait,
c'était la vitrine du savoir-faire alsacien. Et comme en déco, les gens ont beaucoup de mal à se projeter pour la première fois. On leur offrait sur un salon un showroom grandeur nature, de papier peint, de peinture.
Rentrer dans la maison.
Voilà, les gens rentraient dans cette maison. Les artisans étaient là pour parler de leur savoir-faire, mais sans cette pression de la vente aussi. Le cuisiniste était là, mais il parlait de sa cuisine. Évidemment qu'il vendait ses cuisines, mais on n'était pas dans le même rapport de je rentre sur un stand et je sais que je vais me faire alpaguer, ouais. Je sais qu'on va essayer de me vendre des choses.
On venait visiter une maison, en fait. Voilà. Une maison témoin.
C'est une maison témoin.
Ouais. Ouais.
Et ça, c'est un kiff. Et surtout, le panel était très large puisqu'on faisait intervenir à la fois, je disais, des cuisinistes, des peintres, des fabricants de peinture, mais aussi le petit créateur qui va
faire
sa lampe.
Ça vous a pris combien de temps pour construire cette maison ?
Bah, on était à chaque fois sur une année. Il fallait une année pour concevoir la maison.
Et ensuite, il fallait la construire sur le salon.
Et donc, sur le salon, on avait à peu près une quinzaine de jours.
15 jours pour monter, construire la maison.
Ouais, qui allait durer, qui allait être vue pendant 4 jours.
Voilà. Il y avait une musique de ralliement à ce moment-là.
Ben, la patate, quoi, Get Lucky. Il fallait du Daft Punk, ouais. Parce que très fatigant, ouais. Ouais. Très, très fatigant. Des artisans avec qui on a travaillé toutes ces années, qui changeaient parfois d'une année à l'autre, mais je crois que tout le monde avait d'excellents souvenirs quoi, de
ces
moments-là.
Vous avez fait combien des maisons ?
On en a fait pendant 7 ans. Il y a eu 7 éditions.
7 maisons.
Ouais, 7 éditions. Et c'est vrai que ça a été un tournant fantastique parce que j'ai créé une société qui s'est appelée La Maison de Caroline. J'ai créé un site internet qui s'est appelé La Maison de Caroline et j'ai fait vraiment mes débuts en tant que décoratrice. Même si j'ai toujours choisi une décoratrice pour m'accompagner dans les choix déco, je me sentais pas du tout légitime, mais on le faisait ensemble et c'est vrai que c'était du boulot de décoration d'intérieur que je faisais. Et là encore, je me suis auto-formée. Je me suis formée avec d'autres qui savaient. J'ai puisé leur savoir et puis en même temps, je rajoutais ma sauce. Et c'est vrai que c'était des échanges très forts. C'est toutes les décoratrices avec qui j'ai travaillé sont devenues des amies. Mais là encore, je me suis auto-formée.
Mais tu disais, lorsqu'on en parlait, que tu avais parfois eu l'impression d'usurper un petit peu des métiers.
Ben oui.
Et le fait de t'être formée sur le tas, si on peut dire,
c'est ça.
Ça t'a permis de passer outre cette idée-là.
C'est cette problématique, c'est-à-dire que j'ai pas de diplôme en main de journaliste, j'ai pas de diplôme en main de décorateur, mais pourtant, c'est des métiers qui m'ont fait vivre et qui me font vivre. Et c'est là où je me sens usurpatrice. C'est toujours ce problème de confiance en soi. C'est qu'est-ce qu'il faut pour être quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un métier ? Est-ce qu'il faut forcément un diplôme ? Moi, j'ai envie de dire que non, puisque j'en vis aujourd'hui. Mais
il faut des réalisations quand même.
Il faut des réalisations. Mais je veux dire, dans mes moments de doute, je me sens usurpatrice, ouais, parce que je n'ai pas appris ces métiers.
Pourtant, t'as une certaine force de conviction. Quand on t'écoute, on a l'impression, comme tu le disais, tout est possible.
Ben oui, c'est ce qu'il faut. De toute façon, c'est ce qui me fait avancer. Mais ouais, c'est ce que je dis. C'est dans les moments de doute que je me dis, j'ai pas appris. Alors, qu'est-ce que ça apporte, la formation ? Ça apporte une confiance en soi ? Ça doit apporter...
Peut-être que ça fait aller plus vite.
Peut-être. Oui, peut-être.
Mais bon, t'avais pas forcément besoin d'aller plus vite.
Ben non. Alors après, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut se former un peu n'importe quand. Donc là, j'ai profité du confinement pour me former au plan 3D, enfin des choses qui me manquaient, sur lesquelles j'étais un peu, je sentais que je pêchais. Mais c'est vrai que sinon, c'est la confiance en soi, ouais. Ouais.
Et peut-être le regard. Et de Gabriel.
Le regard, bah alors lui, ouais, ça c'est sûr que Gabriel me fait douter. Il sait quand il doit me faire douter parce que moi je m'enflamme très vite. Il me calme, c'est sa sagesse. Et puis en même temps, quand je doute, il me dit mais regarde tout ce que t'as déjà fait, regarde tout ce que t'as déjà accompli. Mm-hmm. C'est qu'il y a quelque chose, quoi.
Et alors, pourquoi ça s'est arrêté, la maison de Caroline ?
Alors, la maison de Caroline, alors à Colmar, forcément, à un moment donné, c'est Parc Expo, se pose des questions. Ils sont obligés d'être innovants, de se renouveler. Et donc, on ne pouvait pas être innovant et se renouveler éternellement. Ils avaient besoin d'un nouveau concept. Donc là, c'est la première année 2020 où il n'y aura pas de maison de Caroline depuis donc 7 ans. Et je pense que c'est tout à fait légitime. Et pour nous, c'est même un moteur parce que ça veut dire qu'on est tout le temps obligé de se renouveler. C'est vrai qu'on a créé en parallèle d'autres choses. La maison de Caroline a duré pendant 7 ans, mais le Parc Expo de Mulhouse est venu apporter une nouvelle impulsion dans notre métier, a fait de nous des créateurs de concept stores. Donc là, c'est encore une autre casquette qu'on a. C'est montrer non pas des artisans, mais des créateurs locaux. Et là, alors là, c'est pareil. On a une mine d'or en Alsace de créateurs locaux. Et donc, on les met en scène, en vente, dans des concept stores où on mélange vraiment cet artisanat local, ce côté do it yourself, puisqu'on organise des ateliers. Il y a toujours un point restauration. Donc les gens se posent, peuvent manger, boire un café. Et ça, ça a été initié vraiment par le Parc Expo de Mulhouse. Quelques années après la maison de Caroline, c'est les concept stores qui sont nés à Mulhouse et qu'on a après développé sur Strasbourg à la foire européenne, de manière autonome pendant le marché de Noël. Maintenant, les gens savent qu'à Strasbourg, au moment du marché de Noël, ils peuvent trouver notre concept store quelque part en ville et découvrir les créateurs alsaciens. C'est permettre, en fait, parce qu'ensemble, on est plus fort. Chaque créateur dans son coin, c'est compliqué de se faire connaître. Et donc, nous, on permet à tous ces créateurs de se faire connaître. On vend pour eux. Du coup, ils continuent à produire de leur côté ou ils font d'autres événements, d'autres marchés ou d'autres cabanes de Noël. Et moi, je joue à la marchande et c'est génial. Parce qu'encore une fois, on fait la promotion d'un savoir-faire. Derrière chaque objet, il y a des gens et on parle de ces gens-là.
Il y a une histoire, oui.
Il y a une histoire. Et là aussi, on est plein d'ondes positives. Et ces ondes positives, on les récupère des gens qui viennent dans nos boutiques. On a un pourcentage de vol qui est infime, alors qu'on est dans des foires avec des milliers de gens. On crée des cocons. Et ça, c'est assez magique parce que les gens sont très, très, très réceptifs. Et on a un public qui est fantastique et qui maintenant du coup est fidèle et les gens savent
et revient
ils reviennent, ils savent qu'ils nous trouvent à Strasbourg, à Mulhouse
et le concept store, c'est-à-dire qu'en fait c'est éphémère.
Oui, alors moi j'aime cet éphémère. J'aime ce côté éphémère aussi parce que on peut développer beaucoup plus d'énergie, on peut mettre beaucoup plus d'énergie et de force dans quelque chose d'éphémère. Une boutique de manière permanente, c'est pour moi c'est anxiogène parce qu'il y a forcément des moments où il y aura moins de monde et l'éphémère permet justement de rester dans cette énergie, toujours de communiquer à fond. On communique à fond pendant un mois et on essaye de faire venir le maximum de gens.
C'est un peu l'adrénaline que tu avais sur le plateau.
C'est ça. C'est ça. C'est une adrénaline. Moi, je marche beaucoup à la pression aussi. J'aime cette pression. J'aime me dire que il faut plaire sur un salon. Il faut plaire. On a
pendant
quatre jours
temps, ouais,
pour
donner,
plaire.
Ouais.
Pour les concept stores, on a un mois pour convaincre et pour plaire. Donc c'est vrai que ça, c'est assez grisant.
Et comment tu te ressources? Comment tu trouves cette créativité? Cette nouveauté que tu dois toujours apporter, cette fraîcheur.
Ça reste, je pense, mon moteur depuis toujours, c'est l'ouverture sur tout.
Aux autres.
À tout, au monde entier. Je suis tout le temps en train de chercher des choses, des nouvelles séries, des nouvelles musiques.
Qu'est-ce que tu écoutes actuellement?
Alors là, moi, je suis à fond. Donc, j'ai découvert TikTok. Donc, on fait des vidéos TikTok. Donc, c'est tout un univers musical aussi. Donc, des choses très décalées. J'aime très dérangeantes aussi. Billie Eilish, Bad Guy, j'aime bien, même si on l'entend partout. Mais elle a un univers quand même qui est très, 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 très fort. Et puis, des choses plus douces, plus smooth. Michael Kiwanuka, j'aime beaucoup. Cold Little Heart, ça, c'est lié à des séries. Toutes ces séries de femmes engagées.
D'ailleurs, tu as fait une saga sur les femmes libres.
Oui, à l'époque d'Alsace 20, ouais, j'avais en parallèle à Secret d'écho, j'avais une chronique qui s'appelait Femmes d'exception. Là aussi, j'avais cette totale liberté d'instaurer comme ça un dialogue de femme à femme pendant une dizaine de minutes avec des femmes qui avaient des parcours un peu atypiques. Et là, ça a été des rencontres très touchantes. Et je m'abreuvais de ces parcours parce que souvent, elles avaient ce dilemme de femme au foyer, femme forte, qui allie tout en même temps, les espèces de superwoman. Et j'aimais bien piquer, tout simplement récupérer leurs trucs et leurs astuces pour m'en sortir. Mais c'est vrai qu'il y a eu des rencontres. Je me souviens par exemple d'Yvonne Allaire du restaurant chez Yvonne, qui m'a raconté comment, orpheline, elle avait réussi à avoir ce restaurant. Elle n'avait jamais eu de chez elle et elle a touché la porte avec sa main et elle a su que ça allait être chez elle et elle en a fait un des restaurants les plus connus d'Alsace, voire même plus. Et ça, c'est des parcours, c'est des moments hyper forts.
Tu t'inspires des autres aussi.
Et ça, et on s'en abreuve. Et en fait, je m'intéresse à elle et je me dis que ça peut intéresser les autres. En fait, les questions que je pose, c'est d'abord des questions qui m'intéressent moi. Et je me dis ça peut intéresser tout le monde. C'est peut-être ce que tout le monde a envie de savoir, quoi.
Alors que tu arrives à concilier aujourd'hui vie de famille, vie professionnelle ultra speed.
Moi, si j'avais pu avoir mes enfants avec moi tout le temps
dans la caravane.
Dans la caravane. D'ailleurs, ils étaient là. Après, le meilleur secret, c'est ce que toutes ces femmes disaient, c'est qu'à un moment donné, il faut cloisonner. Ça a été vraiment mon secret. C'est-à-dire que quand on est au boulot,
pas facile quand ton mari travaille avec toi.
Oui, mais là c'est pareil, on cloisonne mais de moins en moins parce que les enfants grandissent. Mais quand les filles étaient petites, c'est vrai que le secret c'est on est avec les enfants, on est avec les enfants. Ne pas avoir sa tête
donc
ailleurs.
Tu fermes le téléphone,
ouais,
tu coupes les réseaux sociaux.
Ouais, exactement. Voilà. C'est vraiment même en fait c'est pas la quantité, mais c'est la qualité du temps qui est importante. Donc même si j'ai qu'un mercredi tous les 15 jours avec elle, ben je suis à fond avec elle ce mercredi-là.
T'es injoignable.
Et le boulot, ben c'est pareil. On essaye de pas tout mélanger, même si effectivement, ouais, je travaille avec mon homme, quoi. C'est vrai que c'est le meilleur conseil, c'est ça, c'est de cloisonner. Mais avec l'âge grandissant, ben là par exemple, Valentine est juste à côté. J'avais envie qu'elle voie et qu'elle entende ça, et j'ai envie de mélanger. Maintenant, j'ai envie de mélanger. Parce que je suis à mon compte, parce que...
T'es chef d'entreprise maintenant.
Donc maintenant, je suis chef d'entreprise.
Tu es libre.
J'ai choisi la liberté. Ouais. En 2015, c'était plus possible de l'avoir à Alsace 20. Et moi, je ne concevais pas mon métier si je n'étais pas libre. Et donc, ça a été une décision très douloureuse, très compliquée et longue à prendre. Mais je l'ai prise et je ne la regrette pas. Même si on est face au vide tout le temps, parce que finalement, ça dépend que de toi de réussir. Tu sais pas si tu vas manger demain, ça dépend que de toi. Mais j'ai cette liberté et aujourd'hui, ouais, j'ai envie de mélanger le plus possible ma vie professionnelle et de famille.
Vie.
Ouais, c'est ça.
Hein?
Ouais, c'est ça.
Alors, quand t'as la patate, justement, t'as une musique comme ça
alors,
que t'écoutes?
Il y en a une qui va me mettre la patate, c'est sûr. Je l'ai choisie exprès. Il y en a plein. Il y a des milliers de chansons. Mais celle qui nous fait délirer, là, en ce moment, c'est la Carioca. C'est Alain Chabat et Gérard Darmon. D'ailleurs, j'ai un t-shirt Tu bluffes Martoni. J'aime cet humour. Ouais, j'aime ce côté fou. Et l'humour, c'est une arme extraordinaire. Ça fait partie des moteurs, des moteurs clés. C'est comme ça que j'élève mes enfants. C'est comme ça que je vis ma vie de couple. Et c'est comme ça que je travaille au quotidien. J'ai alors parfois un peu trop le mot pour rire, mais c'est l'humour, c'est une force de fou. Et le rire, quoi.
C'est ta force.
Ouais, c'est vraiment ma force.
Youpi, dansons la carioca. C'est bien, fais-les tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres, danse, au revoir.
Alors maintenant, qui ferais-tu monter avec toi sur le podium?
C'est un très grand
Parce qu'avec
podium.
Toutes ces familles-là,
ouais,
ça va être difficile.
C'est un grand, grand podium. Mais je pense que c'est évident de faire monter ses parents et sa famille, parce que c'est ce que je disais, ils ont fait de moi qui je suis, en me donnant la possibilité de me chercher, en m'offrant cette vie d'amour. Ma mère m'a toujours entourée d'amour, mon père nous a fait voyager, mon frère, c'est ma moitié.
Non, mais j'ai l'impression, en t'écoutant, que rien n'est interdit.
Oui, oui. Oui, oui. Alors on avait
sûrement dans ton éducation.
Alors j'avais effectivement cette éducation des possibles sans être trop laxiste non plus. D'ailleurs j'étais une fille très timide et je m'étais faite des barrières aussi parce que tacitement on savait ce qui était possible et ce qui était permis et ce qui n'était pas permis. Voilà. Et donc très longtemps j'étais dans ce carcan de attention, faut pas faire de vagues, il faut pas trop déranger et ça m'a empêchée peut-être d'avancer.
D'accord.
Et ça, je m'en suis libérée. Mais j'avais un amour, voilà, j'avais une confiance en moi qui était là parce que les parents avaient donné de l'amour, quoi,
ouais.
Forcément. Donc, ma famille avant tout, ensuite la famille que je me suis faite, mes enfants et Gabriel. Gabriel, il a été Il a fait de moi qui je suis en tant que professionnelle. Et puis, il a fait de moi une maman, une femme comblée. Donc, voilà, c'est sans lui, je pense que j'en serais pas là, en tout cas. Et on pourrait pas continuer à avancer non plus. C'est vraiment, c'est mon bâton. On est vraiment en tandem tout le temps. Et puis après, toutes ces familles que je me suis créées, quoi. La famille TV Campus, qui m'a appris énormément, la famille Alsatique, la famille Alsace-Vin.
Tu gardes des liens avec tous ces gens?
On essaye, ouais. On essaye le plus possible. Après, c'est parfois compliqué, mais les réseaux sociaux sont là, on se fait des petits coucous. Et tous ces parcs expo, le parc expo de Colmar, de Mulhouse, de Strasbourg maintenant, qui nous font vivre. Alors, on est dans l'événementiel, donc c'est incertain en ce moment, mais on y croit. Et c'est des familles, on a mélangé l'amitié et le boulot, clairement. Et puis la famille déco, toutes ces copines décoratrices, tous ces artisans qui viennent chez nous le samedi soir pour manger, parce que c'est devenu des amis.
C'est beau, ça donne la pêche. Merci Caroline.
Merci.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.